Bonsoir à tous. Bon, installez-vous, nous allons commencer notre soirée que nous avons annoncée à 21h. Il est vrai que l'habitude veut que nous démarrions à 21h15. Bon, donc on va commencer tranquillement pour que ceux qui sont calés sur ces rails aient le temps d'arriver. Donc, vous allez ce soir participer à une soirée dite Connexion, organisée par la commission de l'option épistémique de notre école, composée de Vicky Esteves, ici présente, David Bernard, qui malheureusement était dans l'impossibilité d'être avec nous ce soir, et de moi-même. L'idée qui nous a guidés pour ces soirées, dont c'est la première d'un nouveau cycle, était celle d'un cycle de rencontres avec des personnes ayant des pratiques diverses de la langue, dans des champs discursifs autres que celui de la psychanalyse, et dont ces invités pourraient avoir envie de témoigner et même de débattre avec nous. Le premier d'entre eux, ce soir, est donc Jacques Drillon. José Mattei, qui a été responsable de la revue Champ Lacanien et du bulletin mensuel de notre école, s'est joint à nous ce soir pour interroger Jacques Drillon, en particulier sur ses décollages. Vous verrez. Décollage. Dans le texte d'annonce qui est sur ce petit lutrin, et ce n'est pas anodin, de notre soirée, nous avons tenu à présenter Jacques Drillon comme un homme orchestre. Nous avons préféré cette métaphore au qualificatif en vogue de surdoué, d'autant que Jacques Drillon a, s'agissant d'orchestre, une passion pour la transcription musicale. Cet exercice dont je m'étais dit, avant de lire son Liszt transcripteur, qu'il avait pour les salons de la Nouvelle Athènes du 9e arrondissement, la transcription, une fonction de chaîne IFI. La Nouvelle Athènes étant l'époque faste du milieu du 19e siècle, c'est-à-dire l'époque dite romantique. Pour avoir Wagner et Beethoven, toutes les symphonies dans son salon, on pouvait transcrire. Et voilà, c'était un peu elliptique en le disant comme ça. Jacques Drillon fut en effet l'auteur, il y a 30 ans, d'un essai sur le transcripteur le plus célèbre de l'histoire de la musique, Franz Liszt. Transcrire, je dirais que cela fait partie aussi de notre pratique. Il ne s'agit pas, bien entendu, de musique, en tout cas pas de la même, mais de la langue de Lacan, lorsqu'il interprétait son séminaire. D'aucuns, d'ailleurs, comme Michel Arrivet en particulier, en ont même fait une quasi-étude musicologique. Mais je m'égare en cherchant à forcer la connexion, alors que je sais pertinemment qu'il vaut mieux la laisser venir. Cependant, vous allez voir qu'il n'est pas facile d'attraper Jacques Drillon. Est-ce un critique musical, auteur d'essais remarqués, non seulement sur Liszt, mais aussi sur Schubert, sans parler des recueils d'écrits, d'articles, ni des traductions, et je mets à part celle de lire de Shakespeare, traduction d'entretien avec Stockhausen, avec Gould, avec Gustav Leonhardt, sans parler non plus de ses pratiques musicales proprement dites, les transcriptions qu'il fait lui aussi, pour un ou deux pianos à deux, quatre ou huit mains, auxquels il adjoint parfois un instrument dont il dit par ailleurs le plus grand mal, l'alto. On pourrait penser qu'il en a subi les crains, comme s'il s'était agi des hurlements inextinguibles d'un bébé au plus fort d'une crise d'otite. Peut-être aurons-nous ce soir la possibilité de l'interroger sur un supposé traumatisme. Nous avons cependant bien d'autres angles d'attaque. Le mot attaque convient d'ailleurs à cette pluralité, dans la mesure où il est aussi utilisé en musique. Mais c'est à la ponctuation que je veux en venir, celle de la langue française à laquelle Jacques Drillon s'est voué à la fin du siècle passé, alors que cette langue, que Lacan surnommait « mamille », était attaquée de toutes parts. Une langue qui ne pourrait être cette langue-ci sans la ponctuation qui permet de l'écrire. J'en tire un exemple d'une citation des Misérables. « Méfiez-vous, c'est une belle épée, son jeu est net, il a de l'attaque, pas de feinte perdue, du poignet, du pétillement, de l'éclair, la parade juste et des ripostes mathématiques, bigrin, et il est gaucher. » Cette séquence pourrait figurer dans le traité de la ponctuation française de 1991. Elle mime d'ailleurs les temps d'un assaut au fleuret. On entendrait presque les glissements ou les frottements des fers en action. C'est le théâtre de la langue. Jacques Drillon consacre la moitié du traité à la virgule près. Il sait bien que la virgule est une petite verge avec laquelle on fouette la langue. Elle est petite, il en dit la grandeur. Pour lui, la défense de la langue française passe obligatoirement par l'exercice de ces fines touches qui zèbrent nos phrases et dont les discrets traits noirs sont comme autant de dièses et de bémols. C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est ce qui va me permettre de sauter du coq à l'âne, de la phrase au mot diabolique, ceux dont Jacques Drillon croise les énigmes semaine après semaine dans l'Obs, qui fut nouvelle, mais ne l'est plus tout à fait pour notre invité, puisqu'il y assure la rubrique des mots croisés depuis environ 2 lustres, ayant pris la relève de Robert Sipion pour cet autre exercice de défense de la langue française. Ces définitions à tiroir y sont souvent savoureuses. L'énigme doit contenir sa dose d'astuce et de méchanceté, confère la figure du sphinx. C'est un peu ce principe que Jacques Drillon a suivi pour composer ses recettes érotiques. On y découvre le château de Siling des 120 journées de Sodome, vu de la rôtisserie. N'est-ce pas ainsi, du reste, que Lacan évoque la jouissance, façon grillade ? Par exemple, la recette du bar aux fenouilles de Jacques Drillon aurait pu être concoctée par l'infâme Saint-Fond dans l'histoire de Juliette. Vous lirez, ça s'appelle 6 érotiques plus une, ça vaut la peine. Ça est présent depuis longtemps. En tout cas, depuis Schubert et l'infini, c'est-à-dire 1996. N'étant pas drillonologue, je ne puis affirmer qu'il ne l'était pas auparavant. La constellation Sade-Nietzsche, qui lui, dans cet essai, fait penser forcément au Foucault de l'histoire de la folie. Nous pourrions d'ailleurs interroger Jacques Drillon sur les influences épistémiques, comme nous disons, qu'il a reçues. Mais ce serait sans doute plomber notre soirée. Nous nous enfoncerions dans une matière certes consistante, mais dont la gravité est aux antipodes de la méthode de Jacques Drillon, chez qui il n'y a pas de différence à noter un croisement de jambes dans un salon même pas proustien et un entrechat de Nijinsky. Nous avons donc le plaisir de pouvoir nous entretenir avec lui.
Merci. Voilà.
Alors, nous allons commencer donc cet entretien en le prenant par, nous l'avons décidé ainsi, le bout de la musique. Non, si, oui, si, si, je ne me trompe pas.
Je voudrais m'excuser, surtout après cette présentation, parce que je n'ai absolument pas réfléchi à ces questions, ou très très peu, et en tout cas je ne les ai pas théorisées, et je ne pourrais pas vous délivrer comme ça un exposé avec un petit acte très ordonné. Et
c'est bien ce que nous souhaitions.
Enfin, il me semble avoir disons, compris 2 ou 3 choses
et peut-être que je
qui
peux
nous occupent ce soir, enfin, dont 2 nous occupent ce soir, qui sont précisément la langue française et la musique, qui me semblent Mais je le sais depuis très peu de temps, parce que c'est comme ça, j'ai dû avoir une sorte de nuit pascalienne. Enfin, j'ai compris que, en réalité, la langue que nous parlons, en l'occurrence le français, et la musique étaient absolument à l'opposé l'une de l'autre. Que d'un côté, nous avions l'hyperlangage, la langue française, c'est-à-dire le langage dans son état le plus pur, la langue articulée. Et puis d'un autre côté, nous avions la musique qui est l'anti-langage. Et j'ai compris donc assez récemment, il y a peut-être, je ne sais pas, deux ou trois mois, à quel point la musique échappait à notre réel, pour dire vite. Et que elles étaient toutes les deux, enfin, j'ai employé tout à l'heure cette image de l'ellipse, parce que l'ellipse a deux centres, comme vous savez sans doute, et je les vois à l'opposé l'une de l'autre, mais étant attaquées l'une et l'autre, en même temps, de la même manière, dans l'époque actuelle. Et j'ai l'impression que la langue française étant attaquée et la musique étant attaquée, c'est tout ce qui est entre la musique et la langue française qui est en danger. Un peu comme si on était comme un détachement est pris en tenaille par l'adversaire. Et j'y vois un signe extrêmement inquiétant et déprimant, parce que je vois que la langue française est attaquée un peu comme un corps vivant, de toutes les manières qu'on attaque un corps vivant, par des fractures, des amputations, des infections, des tumeurs, des chancres, tout ce qui peut vous rendre malade, et que de l'autre côté, la musique est, sinon moribonde, en tout cas destinée à rester l'apanage d'une sorte de petite confrérie, un peu comme les catacombes, les premiers chrétiens dans les catacombes qui se cachaient et restaient entre eux. La musique est en train de devenir une sorte de langue morte de latin ou de grec réservée. Comme ça. Elle ne mourra jamais, je pense qu'elle ne mourra jamais. Et ces choses-là ne meurent pas complètement, mais en tout cas, elle sera ce qu'on appelle une langue morte. Et que donc tout ce qui se passe entre les deux est en danger. Alors pourquoi je les mets l'un à l'opposé l'un de l'autre, enfin l'une à l'opposé l'une de l'autre, c'est qu'il me semble que la musique échappe absolument, dans tous les cas, complètement à notre réel, qu'elle ne fait pas partie de notre réel, qu'elle n'obéit pas aux lois de l'univers, du monde, de l'humanité, qu'elle n'obéit pas ni aux lois physiques, ni aux lois esthétiques, ni aux lois morales, ni à aucune loi, qu'elle a son monde propre, que c'est une sphère absolument indépendante, oubliée par Dieu d'une certaine manière, qui aurait oublié de la bousiller comme le reste, et qui l'aurait laissée intacte, et qui nous tourne autour, enfin elle nous tourne autour, je ne sais pas si elle nous tourne autour, c'est un peu comme la Lune et la Terre, mais enfin en plus proche, parce qu'elles sont tangentes. Il me semble que notre réel est tangent avec le réel de la musique. Et que ce point de tangence, enfin sur ce point de tangence, il y a une porte que les musiciens franchissent tout à fait naturellement, extrêmement facilement. Un musicien d'orchestre le fait quatre fois par jour, il y va le matin, il y entre, puis il en sort à midi, puis il recommence à 2 heures, et puis il en sort à 6 heures. Voilà. Et la musique, donc, non seulement n'obéit pas aux lois que nous connaissons, mais surtout elle échappe à une sorte de damnation qui régit notre réel, qui est le système d'opposition, de dualité, de signifiant signifié, de interlocuteur interlocuté, ça veut dire qu'il n'y a pas le fait qu'il n'y ait pas, par exemple, de signes, de signifiant et de signifié, implique le fait qu'il n'y ait pas de déception. La musique n'est absolument jamais décevante. Elle n'est jamais le théâtre d'opposition, de lutte, d'espoir ou de regret. Elle est simplement, elle existe comme cette, comme, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette espèce de parallélépipède dans le film de
Kubrick.
de Kubrick, 2000 ans d'Odyssée de l'espace, c'est bien ça, oui, qui est en l'air là-haut, on ne sait pas ce que c'est. La musique, c'est ça. Et le fait que, par exemple, la déception n'existe pas, enfin, j'entends par déception qu'on prend le signifié pour le signifiant, on voit le narrateur de la recherche voit, imagine Madame de Guermantes, imagine que Madame de Guermantes va être ce qu'il entend. Duchesse de Guermantes, ce nom-là, ce son-là. Et puis il voit Madame de Guermantes, et Madame de Guermantes n'est pas ce son-là. Elle est une femme, un être humain avec des jambes, une robe, des yeux, des rides, éventuellement, etc. Et tout s'écroule. La construction fantasmatique qu'il a de Madame de Guermantes à cause de la sonorité et simplement du nom se révèle être une énorme déception. Et tout, en fait, tout le livre de Proust n'est qu'une suite de déceptions. Une déception amoureuse, artistique, morale, politique, etc. Il ne cesse pas de se heurter au fait qu'il avait pris la silhouette qui passait sur le trottoir pour un être humain. Et ce n'était pas un être humain, c'était une silhouette. Et on ne tombe pas amoureux d'une silhouette. Ou enfin, en tout cas, si on tombe amoureux d'une silhouette, après, la déception vous guette. Et donc, dans la musique, il n'y a pas ça. Dans la musique, il n'y a pas ces deux éléments, ces deux termes qui sont sans arrêt opposés et qui font que notre vie est pourrie de A à Z, du matin au soir, parce qu'on va de déception en déception. Et donc, pour faire ce passage dans ce point de tangence entre les deux sphères, le réel de la musique et le réel tout court, il y a cette porte dont je parlais, et cette porte, elle est c'est un tamis, une sorte de... Oui, c'est un crible. L'être humain, quand il passe cette porte-là, laisse un certain nombre de choses dans le réel, et puis il passe dans le réel musical avec ce dont la musique a besoin. La mémoire, la concentration, la souplesse des doigts, que sais-je. Et la musique ne prend que ça. Elle n'a besoin que de ça. Et donc... La partie d'être qui est passée, qui a franchi la porte et qui se retrouve dans le réel musical est extrêmement partielle, ce qui explique d'ailleurs qu'on puisse être un imbécile ou un salaud ou un avare maladif, comme le sont très souvent les musiciens, et une fois qu'on a passé la porte, se révéler être un être absolument magnifique. Il suffit de penser, enfin on en connaît tous, Stravinsky était d'une ladrerie absolument misérable, enfin, se faisait envoyer ses notes de café à son éditeur pour se faire rembourser son café. Et Böhm était un chef, un petit homme mesquin, à moitié nazi, et lamentable, lui aussi d'une ladrerie. C'était un misérable. Et il passait cette porte-là, laissait sa misère à l'entrée. Il ne savait même pas qu'il était tellement il était bête. Il ne savait même pas qu'il laissait sa misère à l'entrée. Mais tout ce dont la musique avait besoin passait par le crible de cette porte et faisait que cet homme devenait un musicien merveilleux. Parce qu'il y a quand même un mystère là. Comment est-il possible que des hommes parfois aussi médiocres, à divers points de vue, se révèlent des musiciens magnifiques? Et pourquoi des hommes magnifiques se révèlent être des musiciens médiocres? Voilà, c'est qu'il y a ce passage-là. Et alors, effectivement, il faut présenter un passeport pour passer cette porte. Ce passeport, ça s'appelle la technique, qui est un petit peu une image du point de tangence entre les deux mondes. C'est qu'il faut avoir appris un certain nombre de choses pour que ces qualités soient utilisables par la musique. Mais hormis ça, effectivement, on a l'impression que... j'ai maintenant la certitude... qu'on entre dans un monde qui est absolument exempt, oui, exempt de tout ce qui fait que notre vie va d'imparfait en imparfait. Voilà. Et je ne dis pas que ce monde est parfait, il y a des mauvaises musiques, il y a des musiques médiocres, il y a des musiques... mais la question n'est pas là. La question, c'est que ce réel-là ne communique que par cette porte-là avec l'autre réel. Et donc, les gens qui appellent ce qu'ils entendent de la musique ont peut-être l'illusion de passer cette porte-là, mais ils ne la passent pas. C'est ça, d'ailleurs, et là, on peut arriver à la langue française, c'est que les mots changent de sens, que le mot musique a changé de sens dans les, disons, 30 dernières années, et que si vous demandez à Fleur Pellerin de quoi elle parle quand elle parle de musique, vous vous rendrez compte qu'elle ne parle absolument pas de musique. Comme dit Godard, elle dit musique, elle croit musique, elle dit, elle pense qu'elle dit, qu'elle parle de la musique, et elle ne le fait pas, et ça c'est inguérissable, ajoute Godard. Je parlais de ça pour Ruth Christine O'Krent. Elle croit dire le mot de Somalie, mais en fait elle ne dit rien. Et ça c'est inguérissable. Donc le mot musique a changé de sens dans les journaux, à la radio, à la télévision, dans les discours économiques, politiques. Et en fait, ce que la musique est devenue, ou la nouvelle définition du dictionnaire, enfin, je veux dire, parle d'une musique qui est précisément en plein dans notre réel. C'est-à-dire qu'elle est le théâtre d'opposition, de déception, de lutte, de dualité, etc. Tandis que ce « mais », voilà, le « mais », M-A-I-S, il y a un « mais » constamment dans le réel, et dans le monde musical, le « mais » n'existe pas. Cette conjonction-là, « mais », a été rayée du vocabulaire de ce réel-là. Voilà, et donc, c'est pour ça que si on laisse la musique de côté dans cette sphère magnifique, ce parallèle du pet qui flotte dans les airs de côté, on peut arriver en se disant, voilà, on a attaqué la musique comme ça. On a la vie moderne, la vie tout court, la civilisation, le monde, enfin, a évolué de telle manière que cette sphère-là devient de plus en plus inaccessible. Et alors, grand 2, si on passe de l'autre côté, on se rend compte effectivement, la langue française, elle, qui est donc ce qui fait que nous pouvons coexister, communiquer, parler, nous aimer, véhiculer des idées, etc., enfin communiquer, cette langue-là aussi est attaquée. Et alors elle est attaquée, comme je vous disais, de toutes les manières possibles, et de manière contradictoire, c'est-à-dire que, par exemple, ce qui est naturellement la qualité de la langue française, c'est-à-dire sa précision, sa clarté, vous savez, la langue française a été utilisée beaucoup dans les traités internationaux pendant des siècles, parce qu'elle était suffisamment précise pour décrire tous les cas de figure qui entraient en jeu dans les traités entre les pays. Et Gide dit que, c'était certainement pour ça, mais c'était aussi parce qu'elle cachait, elle pouvait cacher les véritables intentions des pays qui signaient les traités. Et c'est ça, en fait, quand on est clair... On a la capacité, comme on dit aujourd'hui à la télévision, on a la capacité, c'est-à-dire on peut être non clair. Alors, dans la langue française, par exemple, les mots les plus importants qui concernent, les mots les plus importants sont des mots en général extrêmement brefs, souvent monosyllabiques. C'est vie, mort, vin, pain, sel, peur. On peut en chercher. Il y a énormément, tous les mots importants sont monosyllabiques. Donc, on va attaquer le monosyllabique et on va l'amplifier. Enfin, ce qui est court, on va l'amplifier, on va l'allonger. Et donc, on ne dira plus transfert, on dira transferment. On ne dira plus, j'en ai noté quelques-uns, on ne dira plus mûr, on dira mature. On ne dira plus attirant, on dira attractif, etc. Donc ça, c'est le côté tumeur de la chose, n'est-ce pas ? C'est une sorte de prolifération. C'est, justement, on ne peut plus, on est dans la capacité de. Ça, c'est une dernière mode, c'est à quelques mois, c'est tout jeune, ça vient de sortir. On a la capacité de, ou la possibilité de. Je vous remercie, monsieur, j'ai bien réceptionné votre envoi. Lu, il y a une semaine, sous la plume d'un grand professeur d'université de la Sorbonne, j'ai bien réceptionné votre envoi. Il peut bien l'avoir reçu, comme tout le monde. Alors, et dans le même temps, ce qui était long, donc ce qui faisait la chair de la langue, la graisse, disons, de la langue, à ce moment-là, on l'attaque en l'appauvrissant, en le réduisant. Donc ce qui était long devient petit. Donc cinématographe devient cinéma, devient ciné. Ça, c'est pour le vocabulaire. C'est un stade très, très élémentaire de la crise. Mais c'est un stade qui est révélateur. Le fait qu'on attaque ce qui est petit en le rendant grand, et ce qui est grand en le rendant petit, fait que on est dans une sorte de, d'univers indifférenciés, de tissus indifférenciés, comme on dit en médecine, il y a des cancers indifférenciés. On ne sait plus ce qui est malade, parce que les choses sont contraires, les choses se combinent. Et comme dans le même temps, on supprime ce qui fait l'articulation des choses, le coude, le genou, etc., qu'on supprime les prépositions, les maladies se combinent entre elles. Le chancre se combine avec le cancer. Tout ça se combine. Par exemple, on dit dans le journalisme, on dit un spécial jeûne, ou bien on fait une soirée pizza, ou bien ce que j'ai noté la semaine dernière, l'espace Schengen, un point presse, le budget 2016, un week-end culture, un club vacances, un espace détente, la cuisine minceur, au niveau prix, question impôt. Tout ça, ce sont des termes qui, jusque-là, étaient organisés les uns par rapport aux autres, avec ce qu'on appelle des prépositions, qui était extraordinairement utile et qui faisait que les mots avaient un lien logique et chronologique, les uns avec les autres. Et à partir du moment où vous les posez là, par une sorte d'apposition généralisée, vous transformez la langue française, donc vous la transformez, vous la faites passer d'un état de chaîne, de train avec une locomotive, des wagons, etc., en bloc posé. Comme vous aviez remarqué tout à l'heure, effectivement, à la télévision, on ne dit plus « Pierre passe à Paul et Paul passe à Ernest », on dit « Pierre, Paul, Ernest », sans dire que c'est le ballon qui passe de l'un à l'autre. On pose les choses. Voilà. C'est d'ailleurs, curieusement, c'est le style, c'est la caractéristique des styles archaïques. On appelle ça la parataxe en linguistique, c'est la caractéristique de la Bible, par exemple. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis, l'homme, ceci, etc. On ne dit pas « je dis que l'homme », je dis « l'homme ». On pose les choses comme ça. Donc la civilisation a fait que ce style archaïque s'est développé, et puis il s'est organisé justement. Et là, en supprimant toutes ces articulations de la phrase, là où on attaque la syntaxe, à ce moment-là, on retourne à une sorte d'état primitif où la langue ressemble de plus en plus à une série de onomatopées, on pourrait dire. Voilà, mais je continue si vous voulez. Vous êtes là pour ça. Ah, je livre à votre sagacité un seul mot, qui est le mot genre. C'est très à la mode, le mot genre. Je ne parle pas du genre par rapport au sexe. Hein. Enfin, encore que. Mais par exemple, genre, j'ai noté aussi la semaine dernière, c'est un canard genre libération. Elle téléphone genre 10 fois par jour. Ils ont mis genre 2 espaces fumeurs par étage. C'était pas tant tout de même. Voilà. C'est-à-dire que le mot genre devient une sorte de joker, de mot qui résume à lui tout seul toutes sortes de constructions de phrases, des comme si, des. Enfin. Elle fait. Oh non, c'est formidable. Elle fait une tête, genre tout le monde devrait être à ses pieds. Ou bien, parce que ça se complique, c'est genre que, il me dit, tu vas te planter au brevet, genre que je vais me laisser impressionner. Oui, comme si. Mais alors, l'intérêt de genre, c'est qu'on n'a pas besoin de la concordance des temps. Comme si j'allais être impressionné, comme si j'étais impressionné. Là, c'est genre que je vais me laisser. Plus de concordance des temps, n'est-ce pas ? La concordance des temps, c'est extrêmement ennuyeux, c'est très compliqué. Et il est vrai, et c'est pour ça que personnellement je l'aime, et il est vrai que la langue française est pleine de ces choses-là, pleine de ces difficultés-là. Que c'est une langue qui se gagne, pas qui se mérite, mais enfin quelque chose qui ressemble un peu à ça, et elle est pleine de trous, elle est pleine de lacunes, elle est de défauts, d'imprécisions, je veux dire, on loue une chambre. Si vous louez une chambre, vous la louez ou vous la louez ? N'est-ce pas ? Vous prenez un remède pour le rhume, un remède contre le rhume, enfin, etc., etc. Sans parler d'absurdité dans toute la manière de compter le temps, qui est dans une semaine, c'est dans 8 jours, dans 2 semaines, c'est dans 15 jours, qui n'est même pas le double de 8. Non, mais vous avancez un rendez-vous, si vous avancez un rendez-vous et que vous reculez votre monde, vous faites exactement le même mouvement. Enfin, elle est totalement anarchique de ce point de vue-là, sur des sujets vraiment importants. Les liens familiaux, par exemple, on manque cruellement de termes pour désigner les liens familiaux. Et on finit par dire c'est mon cousin. Parce qu'on ne sait pas. Il y a par exemple le veuf, la veuve, il y a l'orphelin, l'orpheline, mais il n'y a pas de mot pour désigner les parents d'un enfant mort. D'ailleurs, vous devriez vous poser la question, dans votre métier, je trouve, c'est quand même incroyable qu'il n'y ait pas de mot pour dire ça. Comme si la chose même était si douloureuse qu'elle était indicible. Enfin, c'est comme ça que je me l'explique, mais j'ai sans doute tort. Enfin bref, donc cette espèce d'appauvrissement, moi c'est comme ça que je localise la faute. Je me fiche de savoir si embarras porte deux R ou un seul. Je me fiche qu'on ne sache pas exactement accorder un participe passé de verbe pronominal, parce que c'est monstrueusement précis, mais monstrueusement difficile, qu'il faut à chaque fois réfléchir. Les chansons que j'ai entendues chanter, les chanteuses que j'ai entendues chanter, tout ça ne s'écrit pas de la même manière. Tout ça s'explique, mais c'est difficile. Donc, que quelqu'un se trompe dans un accord comme ça, comme celui-là, ou dans une faute d'usage, enfin dans l'orthographe d'usage, ces choses-là n'ont pas vraiment d'importance. Mais quand on frappe à l'endroit de la richesse, lorsqu'on appauvrit sciemment, c'est là que, à mon avis, gît la faute. C'est là qu'est la seule faute. C'est-à-dire que, par exemple, avant, nous avions deux mots. Nous avions homonyme et puis éponyme. Homonyme, c'est qui a le même nom. Éponyme, ça veut dire qui donne son nom. Donc, Staline est un éponyme. Il a donné son nom à Stalingrad. Égée est un dieu éponyme, parce qu'on appelle la mère Égée. Maintenant, éponyme, qui était très chic, a séduit les locuteurs habituels, tout le monde, nous. Éponyme étant beaucoup plus chic qu'homonyme, tout est éponyme. Donc, Phèdre est l'héroïne éponyme de la pièce est l'éponyme du personnage de Phèdre, tout le monde est éponyme, le disque éponyme d'un tel, etc. Et donc on ne peut plus dire homonyme et éponyme puisqu'on n'a plus qu'un seul mot. Il y a une des choses désignées par ce mot-là qui est indésignable, cette chose est morte. Ces exemples se retrouvent dans beaucoup de termes un petit peu savants qui ont séduit comme ça. Il m'en était venu un autre qui était très amusant, qui était extrêmement clair. Voilà, c'était le sigle. Le sigle est l'acronyme. Un sigle, c'est SNCF, et puis un acronyme, c'est un sigle qu'on prononce, comme SMIC. On ne dit pas SMIC, on dit SMIC. Donc, dans un cas, on a à RATP, on a un sigle, et dans l'autre cas, on a un acronyme, sigle prononcé. Sigle, c'est vraiment moche, puis c'est bête. Donc, on ne dira plus sigle, on dira acronyme pour tout. Et on ne peut plus faire la différence entre un sigle et un acronyme. Donc, petit à petit, le champ se rétrécit. Et puis, il y a aussi des attaques. Ce champ, je ne sais pas s'il est volontaire ou involontaire. Je pense qu'il est en partie, il est naïf, en tout cas. Il est... on sait que c'est pour faire chic, donc c'est ça. D'une certaine manière, ça part d'une bonne intention, ou quelque chose comme ça. Mais il y a aussi ce qui est totalement volontaire et autodestructeur, et là, c'est l'anglais. C'est-à-dire que la préférence absolument systématique pour le mot anglais, même pour les choses les plus simples. L'autre jour, pour un article que j'avais à écrire, j'ai cherché dans le bottin le nombre de marchands de chaussures qu'il y avait sur les grands boulevards entre la République et l'Opéra. Eh bien, ces marchands de chaussures, c'est très instructif, il faut faire ça de temps en temps, il faut mettre son nez dans le bottin. Ils s'appelaient tous Shoes. Je veux dire que c'était pas tous, c'était au moins 2 sur 3, si ce n'est 3 sur 4. C'était Shoes, 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 etc. Partout. Vous n'avez plus un seul opticien qui ne s'appelle pas Optique avec un C, etc. Donc, on se demande pourquoi un marchand de chaussures ne s'appelle pas Chaussures, marchand de chaussures. Pourquoi il s'appelle Shoes Market ? Ou je ne sais pas quoi. Parce que simplement, je pense qu'il y a une espèce de honte, et c'est ça l'autodestruction, il y a une espèce de honte du locuteur français d'employer le mot français. Comme si la chose était si bête qu'il en avait honte. Il est clair que la honte, la langue étrangère fait passer des choses. Quand on voit par exemple la... j'avais vu ce slogan publicitaire pour l'agence de pub qui a créé le nouveau site de Libération, donc une agence parisienne. Et ce slogan était « Look at me, like me, follow me ». C'est très chic. Évidemment, si vous dites « Suis-moi, aime-moi vous avez les... et regarde-moi », enfin, c'est minable. Et donc, comme ils ne veulent pas avoir l'air minable, ils le disent en anglais. Exactement comme Odette de Crécy dit « Ce n'est pas my cup of tea ». Mais seulement à l'époque de Proust, quand Odette de Crécy dit « Ce n'est pas my cup of tea », elle est un peu ridicule. On dit, mais elle est tout simplement, c'est une espèce de snobisme de bas étage, c'est même pas du vrai snobisme, c'est un snobisme de cocotte, puisque cocotte elle est. Mais tout le monde s'en moque. Tandis que maintenant, c'est le contraire. Si vous intitulez votre boutique de chaussures, vous avez l'air d'un plouc. Donc la chose s'est renversée. Et on n'imagine pas, mais il faut absolument y penser, il faut prendre conscience de cela. Il faut circuler dans Paris, il faut lire les livres, il faut écouter les discours des ministres, il faut lire le bouquin d'Alain Borer sur cette question, qui est plein de... Les cheveux vous dressent sur la tête parfois, quand il vous dit par exemple que le premier discours de Giscard d'Estaing, après son élection à la présidence de la République, était en anglais, c'est quand même insensé. Ou que Christine Ockrent dans Corel interviewe Shimon Peres en anglais, alors que Shimon Peres parle un français comme vous et moi, parfait. Pourquoi elle fait ça? D'où vient, alors là, j'attends votre aide, d'où vient cette honte que nous avons d'être ce que nous sommes? Et du coup, où allons-nous? Je veux dire par là que si on est... Si, je conclue, ça va être une conclusion, petit 3. Si nous sommes attaqués par la musique, l'anti-langage, et par la langue française, qui est le langage par excellence, ce qui est entre les deux... Voilà, me plonge dans l'inquiétude.
Alors, on va rebondir. Tu veux prendre la suite? Attends, je vais t'approcher.
Non, c'est pas la peine, je crois.
Je ne sais pas.
Non.
Oui.
Ah.
Oui, mais c'est bon.
Oui, je voulais... parler de votre livre, cet observatoire de la langue qui s'appelle Les fausses dents de Berlusconi. Je vous livre, ça c'est le titre, mais raccourci, hein, sinon c'est Les fausses dents de Berlusconi, virgule, étincelante, virgule, parfaitement rangée, virgule, toute pareille, virgule, ridicule.
C'est bien quand même qu'un homme qui a, je sais pas, 75 ans n'a pas des dents comme ça.
Ah non, c'est vrai. Ça nous saute à la figure.
Ça nous saute à la figure. Et par conséquent, en plus, il atteint le but inverse qu'il se proposait d'atteindre.
Voilà.
Il devient ridicule au lieu d'être admirable.
Voilà. Alors, ce livre rassemble les papiers décollés qui sont parus dans le Nouvel Obs. Alors décoller, ça décolle et ça décoiffe, moi je dirais. Hein. Ça s'envole, ça se décolle. Au sens aussi de se détacher des textes d'origine, vous croquez les humains, vous nous épinglez, vous épinglez notre bêtise, notre intelligence parfois aussi. Alors, moi je vous ai trouvé... Vous m'avez dit que vous étiez d'accord, une filiation avec Félix Fénéon. Dans votre façon aussi de dénoncer des faits sans jugement. Et au début de votre livre, en avant-propos, vous dites « Posons les choses sous la lampe, si possible sans verbe, sans action, sans intention. Faisons d'état tout ce qui fait la vie. » Alors, lettré, est-ce que... Vous êtes un lettré, vous observez, êtes à l'affût pour remplir votre panier, faire votre récolte. Et moi, je voulais savoir comment vous décidez de ce qu'il faut ramasser ou pas, parce que vous en ramassez des choses. Vous ramassez, par exemple, le creux poplité. Vous ramassez...
C'est rigolo, le creux
Mais oui, je suis d'accord.
C'est qu'on a tous des creux compliqués.
Voilà.
J'ai raison de deux par personne.
Voilà, c'est ça. Vous constatez le boomerang objet retors par nature. Vous constatez encore plus personne ne vous souhaite votre fête, sauf la redoute. Vous observez le casse-noix toujours aux mains d'un autre et qu'il faut attendre. Les femmes qui portent des jupes très courtes et passent leur temps à tirer dessus. C'est vrai! Vous citez Lacan, Proust, vous faites des occurrences. Il y a quelques pages sur les 13 personnages de chez Proust qui portent monocle. Vous les avez récoltés, Beckett, Novarina, Céline, Guitry, Graciane. Vous citez Lacan. Faites comme moi, ne m'imitez pas. Voilà, par exemple. Vous établissez des faits bruts, voilà, c'est là que je vous trouve une ressemblance avec Félix Fénéon, les 47 morts de Tchernobyl. Juillet 42, les Juifs n'ont plus le droit de traverser les Champs-Élysées. Oui, voilà, il n'y a rien à dire.
C'est-à-dire qu'il y a, comme disait justement, je ne sais plus qui à propos de Fénéon, où il disait « chaque mot a 6 étages de cave ». Dans Fénéon. Hein. Et c'était Poulenc qui disait ça. Quand vous dites les 47 morts de Tchernobyl, vous posez cette affirmation-là, alors que tous vos lecteurs savent qu'il y en a eu des milliers, n'est-ce pas ? Donc, le fait simplement de poser les 47 morts, c'est d'ailleurs entre guillemets, je pense,
dans
le texte,
les
47 morts de. Il n'y a rien d'autre à dire. Ça, tout le reste vient tout seul. Les 6 étages de cave viennent. Et l'histoire des Juifs, ils n'ont plus le droit de traverser les Champs-Élysées, c'est une chose que j'ignorais. Je connaissais les règlements, les lois juives, anti-juives, etc. Mais celle-là, je l'ignorais. Traverser les Champs-Élysées. Et je me dis, en posant cette chose-là, simplement sans aucun commentaire, aussitôt la réaction normale d'un être humain, enfin, d'un être humain normalement constitué, c'est de dire, mais où ils ont pu chercher ça ? Jusqu'à quel point de folie ils étaient pour imaginer d'interdire à un certain nombre de gens, de traverser une avenue. Et c'est comme l'histoire des Anglais, des Victoriens.
Excusez-moi, c'était la plus belle avenue du monde, ça, on l'appelait comme ça.
Oui, mais d'accord.
Oui,
mais enfin d'accord, mais la traversée, je ne sais pas. Je sais qu'on les vieillards n'avaient pas le droit de s'asseoir sur des bancs non plus, etc. Mais là, on voit bien la brimade. Mais traverser l'avenue, ça me paraît être vraiment de la. Enfin bon. J'avais commencé. Les Victoriens, voilà. À l'époque victorienne, on était si vicieux qu'on interdisait, enfin qu'on déconseillait aux parents qui avaient des jeunes filles encore pures de considérer les pieds de piano à queue. Et donc on entourait, on cachait les pieds des pianos à queue de tapis, de linge, en fait, pour leur faire perdre leur forme. Donc, je veux dire, sous couvert justement de vertu, combien de vices ça révèle, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, à partir du moment où vous posez ce fait-là, oui,
aller cacher, ça les révèle,
bien sûr. Donc vous posez simplement ça, et aussitôt le lecteur, que vous croyez être un homme, comme je disais tout à l'heure, normalement constitué, réagit aussitôt. Mais ils étaient donc fous. Enfin, voilà. C'est ça l'intérêt de la chose, de ne pas mettre de verbe, de ne pas mettre d'action, de ne pas faire de commentaires, de simplement, effectivement, comme je dis, faire des tas de choses intéressantes. Je voulais intituler ce livre « Tas de choses ». Et puis chez Grasset, ils m'ont dit, vous êtes complètement fou, c'est totalement contre-productif et invendable, personne ne va acheter des tas de choses. Donc je n'ai pas eu droit. Mais je trouve que c'est ça, c'est, dans ce livre, j'ai fait des tas de choses, et les choses sont soit intéressantes, soit émouvantes, soit banales, mais invisibles. L'histoire des femmes qui tirent sur leur jupe, évidemment, on l'a tous remarqué, et le fait simplement de l'écrire, donc ça, ah oui, voilà. C'est très, très modeste. Hein. C'est... Alors, et puis, c'est aussi le refus d'organiser les choses qui fait que je... les brèves me vont très, très bien. Et puis, ça se polie un peu. Comme, voilà, c'est très agréable à faire.
Les mots d'esprit, veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée, mais pas pour le français d'occasion. Vous écrivez aussi faux érable, faux acacia, faux pas déconner. Pas déconner, P-A-D-E, accent aigu, K-O-N-E. De chèvre à chèvre, de brouter des bobines de film, j'ai préféré le livre. Moi aussi, dit l'autre. Les citations tronquées, longtemps je me suis touchée de bonheur. L'imparfait du subjectif, avoir le don de double vie.
Oui, le calembour, évidemment. Ouais. C'est pas à vous que je vais dire ça.
Alors, il y a des phrases que vous appelez les obsolètes, c'est-à-dire les choses que l'on ne peut plus dire ni écrire. N'oubliez pas l'ouvreuse. Le papier chocolat, un prof qui fume en cours. Et il y a des informations capitales, dont une qui m'a, je dois dire, je ne savais pas, Alice de la série des Caroline Quinn, c'était plusieurs auteurs. Ah non, mais c'était fou. Vous avez lu Alice, en fait,
Caroline
Quinn était...
un pseudonyme collectif.
Voilà, c'est ça. C'est cette nouvelle, je ne savais pas.
12,
voilà, 12, c'est ce que vous nous dites, page 212, qu'effectivement... Et des contrepétries, vous faites des contrepétries, pardon. Courbe-toi, fier si cambre, cambre-toi, vieux si courbe. Voilà, je terminerai là-dessus. Non, mais bon, allez. Vous parlez de Dorothy Parker aussi, que j'aime beaucoup.
Oui, est-ce que on est en train de passer d'un exercice à un autre, parce que de la défense de la langue au décollage, on vient d'évoquer, et au croisement des mots, oui, est-ce que ça ne touche pas quand même au même point que celui que vous avez évoqué en introduction concernant le
En l'occurrence, c'est pas très intéressant. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais il y a d'abord un travail qui est très gratifiant et très difficile en même temps, qui est le travail de la concision. Il faudrait arriver à une concision presque latine à laquelle nous ne pouvons pas atteindre, mais qu'il faut viser. Et donc, à partir du moment où la langue est votre à la fois carburant, comburant, moteur, etc. Quand vous commencez à travailler avec cet outil-là, vous avez extrêmement envie de le voir poli comme un vieil outil. Quand vous achetez votre marteau, il est tout beau, tout neuf, et il est moche en réalité. Il ne devient beau qu'au bout de 30 ans et à deux générations de... Voilà, ça devient un vrai marteau. La langue française doit devenir ça, doit devenir un outil poli qui s'est fait à votre main, que vous connaissez parfaitement bien, avec lequel vous pouvez jouer, avec un outil avec lequel vous pouvez aller exactement à l'endroit où vous voulez pour faire l'action que vous avez décidé de faire, etc. Et donc la brève est très utile. C'est pour ça que Félix Fénéon était un maître, parce que il arrivait à raconter une histoire. Ces brèves, ça s'appelle des nouvelles de trois lignes, qui publiaient dans les journaux, qui étaient des espèces d'inventions. C'est des faits divers, que des faits divers. Et il arrivait donc en général en trois lignes, oui, à raconter toute une histoire avec vraiment rien, avec extrêmement peu de mots. Et ça veut dire que tout le travail, justement, comme si la langue française avait été domptée, comme si elle avait réussi à faire cet exercice-là, de dire en très peu de place quelque chose qui était très long. Et donc, pour moi, c'est amusant à faire pour ça. Voilà.
C'est connoter le réel, ça. C'est en attraper un bout. Moi, je le comprends comme ça, quand il parle de Félix Fénéon.
Tu peux donner deux, trois exemples
Un pauvre d'une quinzaine d'années se jette dans le canal, pleine Saint-Denis. On lui tend une gaule. Il la repousse et coule à pic. Il fallut une bonne demi-heure pour dégager Ingalls des bûches dont la pile lui avait dégringolé dessus, quai d'Austerlitz. Voilà. C'est tout.
Les histoires en elles-mêmes, on va voir qu'on adhérait, l'intérêt vient de la concision.
Voilà, c'est ça.
Alors, c'est très épatant, ça. Oui. C'est exactement comme les premières phrases de Marcel Aimé. Un jour, je crois que c'est comme ça. Un jour, le nain du cirque Barnaboum se mit à grandir. Non, il faut en faire autant, c'est ça. Hein. Alors, je veux dire, ça, tout ça, évidemment, il y a, tout l'effort est gommé, parce que c'est pas comme dans Flaubert, justement, où on sent l'effort. Là, l'effort est complètement oublié. Il n'y a plus que la fluidité et la rapidité. Ça, c'est vraiment admirable. Une phrase comme cela est admirable. Parce qu'elle vous dit tout d'un seul coup, elle vous donne envie de continuer, elle est mystérieuse, elle est amusante. Enfin, c'est parfait, oui. Alors, ce que je voulais dire, pardon, et puis... Ce que je voulais dire, c'est à propos de ces papiers décollés, j'ai appelé ça papier décollé parce que Perros avait publié des livres qui s'appelaient papier collé, qui étaient exactement fondés sur le même principe. Et donc, je ne pouvais pas faire encore coller des papiers, moi, je les ai décollés. Ce que je veux dire, c'est que, outre le plaisir formel qu'il y a, dont je viens de parler, il y a un plaisir de fraternité, enfin de, comment dit-on, de complicité avec le lecteur, que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. C'est extraordinairement agréable de se dire « Ceux qui peuvent comprendre me comprendront, ceux qui ne comprennent pas ne comprennent pas, tant pis. Mais en tout cas, je suis sûr qu'en face de moi, j'ai des gens qui vont comprendre exactement ce que j'ai dit, qui vont comprendre pourquoi je l'ai dit comme ça, et on va être enfin ensemble. » Ce qui n'arrive jamais. Je veux dire... Si vous écrivez un roman policier où il y a du suspense, bon, vous savez que le lecteur va vouloir savoir qui est l'assassin, etc. Mais tout ça est très vague. Tandis que dans une phrase très brève comme ça, vous savez, vous pouvez prévoir presque le sourire de votre lecteur. Vous le provoquez, et puis vous l'aimez, et il vous aime à ce moment-là. Il y a une sorte de communication instantanée. C'est le fit, n'est-ce pas?
Richesse, dompté, mystérieux, fluidité, rapidité, amusant, des gens qui vont comprendre pour commencer à parler des mots croisés. Parce que c'est quand même une pratique extraordinaire. Dans l'entretien que vous nous avez accordé en avril, il y a des moments sublimes sur les mots croisés. Alors, je ne vais pas les dire, mais...
Mais... Quelle est la question exactement, parce que au moins une
des gens qui vont comprendre. Allez, des gens qui vont comprendre. C'est ce qui me rapproche le plus de ce que vous avez dit que je ne peux pas évoquer.
Des gens qui vont comprendre.
Bah oui, quand vous faites.
Ah oui, d'accord.
C'est la complicité.
Oui, alors, il faut quelques petits mots d'introduction. Il y a deux genres de mots croisés. Il y a des mots croisés, ceux du Parisien ou du Monde ou de Zin, où on remplit les grilles, comme ça, vous avez fleuve prenant sa source au Mont Gerbier de Jonc, ben vous savez que c'est, je sais plus, la Seine ou la Loire, enfin bref, etc. Ça, ce sont des mots croisés par synonyme, ça passe le temps dans le métro, c'est agréable, etc. Mais puis il y a les mots croisés à énigmes, qui sont... une autre sorte de mot croisé, c'est un autre jeu, d'une certaine manière, ça se présente de la même manière, mais c'est un autre jeu, où donc vous avez une énigme qui est tout à fait du genre de celle du Sphinx à Édipe. Le Sphinx pose une énigme à Édipe, et en l'occurrence, le sort de la ville est entre ses mains, et il résout l'énigme, et le Sphinx tombe dans le feu et meurt. Alors, c'est donc pas une histoire, c'est pas une histoire récente. Les mots croisés ont un siècle exactement. Ils sont nés il y a maintenant 101 ans exactement, historiquement, je veux dire. Mais en fait, le jeu des énigmes est un jeu qui est aussi vieux que les hommes, qui aiment se poser les énigmes. Simplement, le mot croisé est une manière typographique, graphique plutôt, d'organiser ces énigmes. Et donc, il y a deux personnages. Il y a l'Édipe et il y a le Sphinx. Et... Le Sphinx est toujours en hauteur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur tous les tableaux qu'il représente, que ce soit déjà les vases grecs comme Ingres, etc., toutes les représentations du sphinx, il est toujours posé sur un socle, enfin en tout cas en hauteur, et puis Édipe est en bas, et il est là, et il est écrasé par la difficulté. Et puis, il résout la difficulté. Et il résout la difficulté, et à ce moment-là, la chose se renverse. Il sauve Thèbes, le sphinx meurt. Et c'est ça qui fait, je trouve, parce que maintenant, ça fait quand même un certain nombre d'années que j'en fais, c'est ça qui fait marcher la machine, si j'ose dire. C'est ça qui me donne l'envie, tous les matins, de me mettre devant ma table et de refaire une nouvelle grille et de recommencer. Parce que c'est quand même très, 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 très... Enfin, je veux dire, on ne peut pas tricher, on ne peut pas oublier une définition, il faut les faire, il faut qu'elles soient bonnes, sinon vous vous faites engueuler, etc. C'est quand même très, très... On est assujetti à une... C'est une tâche difficile et un peu ingrate. Mais à l'idée...
Comme un exercice spirituel.
Exactement. Exactement. Et l'exercice spirituel, en général, on s'endort avant d'avoir fini, donc... C'est pour ça que je fais mes mots croisés le matin entre 6 et 8, pour ne pas être tenté de me coucher. Mais je veux dire que ce qui fait marcher la machine, c'est ça. C'est le fait de se dire que quand le lecteur va se trouver devant le problème, il va haïr celui qui l'a conçu, profondément, très méchamment, très agressivement. On m'écrit, je reçois des mails d'insultes, etc. Et puis au fur et à mesure de la résolution du problème, il prend l'avantage. Tout d'un coup, il dit, je suis en train de t'avoir. J'ai résolu un tiers de la grille. Si j'arrive à trouver le 1 horizontal, je suis gagnant. Je le trouve. Et ça y est, je t'ai eu. Et à ce moment-là, moi, je me retrouve tout recroquevillé dans mon petit coin. Je ne suis plus rien. Je suis un escroc dont on a déjoué l'escroquerie. Et en plus, lui, il a payé pour ça. C'est un peu comme dans l'analyse. Il faut payer pour que ça marche. Il faut payer pour que la douleur soit sincère. Il faut que le. Bon. En plus, parfois, moi, je travaille dans un journal de gauche, donc je suis vu par les gens de droite qui achètent l'Obs, qui déchirent la page des mots croisés et qui jettent le torchon dans la poubelle pour pouvoir les faire. Et donc, ce jeu-là. Et donc, toute la correspondance qui va avec tous les échanges, les mails, les lettres, etc., m'a fait comprendre qu'il existait un rapport absolument de personne à personne entre chacun des joueurs et moi, et que c'était inappréciable. Je veux dire que même c'est parfois... parce que l'autre, il est parfois pesant, et donc c'est parfois pesant aussi. Quand il me raconte, on me dit j'ai trouvé les trois horizontales et puis je me suis planté dans le. Alors j'ai dû revenir et parfois le mail fait 30, 40, 50 lignes où on me raconte toute l'histoire de moi. Bon, alors. Mais ça se complique du fait que chacun pense que c'est pour lui que la grille a été faite. C'est son problème à lui. Si je mets un mot. Normalement, le tout l'art est de ne pas employer des mots rares, il faut que ce soit des mots de courant, que les énigmes portent sur des mots courants. Si je mets parataxe, personne ne trouvera, c'est pas drôle, c'est pas intéressant. Mais si par hasard je mets parataxe, parce que je ne trouve pas autre chose à caser dans cet endroit, hein, je mets parataxe, donc le linguiste sait très bien ce que c'est qu'une parataxe, il ne sera pas furieux. Mais le médecin, qui lui n'a jamais entendu parler de parataxe, il est furieux. Il dit, on m'a roulé, on m'a posé une énigme, mais en fait, je n'étais pas en mesure, je n'étais pas dans la capacité de trouver le mot. Et donc, il est trahi. Et il m'en veut énormément parce qu'il est trahi. Je veux dire qu'on a passé un marché, lui et moi. Je l'entraîne sur des fausses pistes, mais loyalement. Enfin, C'est un mensonge loyal. Alors donc, il m'écrit, évidemment, il m'a dit, par attaque, je ne sais pas ce que c'est. Et alors, à l'inverse, donc, comme un voyageur qui attendrait de la SNCF qu'elle lui propose un train à 20h30, parce qu'il sort du bureau à 20h10, qu'il a 20 minutes de métro, et que donc il est indispensable que la SNCF mette un train à 20h30. Donc le médecin veut des termes médicaux, l'architecte des termes d'architecture, le linguiste des termes de linguistique. Et il me dit, mais pourquoi Jacques Drillon, il m'écrit, pourquoi vous ne mettez jamais de termes linguistiques alors que je suis linguiste? Vous comprenez la question? Il y a un ensemble de couples d'Édipe et de Sphinx. Et c'est je dois dire, assez enthousiasmant. Enfin, voilà. Ça n'est pas comme écrire un article.
Non.
Vous écrivez votre article et il tombe dans le grand trou.
Alors, comment vous trouvez vos définitions ? Parce que vous nous avez parlé de quelque chose.
Alors, l'idée étant d'emmener le joueur sur ce que les Anglais appellent une piste de harangue rouge, donc une assez belle expression, une piste qui ne mène nulle part, quoi, une impasse. Et pour l'emmener dans cette impasse, il faut le tromper. Pour le tromper, il faut lui faire croire qu'on ne le trompe pas. Donc lui donner une définition qui a du sens, qui a un sens. Enfin bon, évidemment, aucun exemple ne me vient à l'esprit, c'est toujours comme ça. Mais en fait, une phrase qui a du sens. Et donc il dit, cette phrase, si je dis par exemple n'importe quoi, un verre d'eau, et bon, il dit un verre d'eau, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Je cherche verre d'eau, un contenant quelconque, etc. Donc, vous l'emmenez dans une certaine direction. Et cette direction n'est pas la bonne, et donc il cherche où vous avez mis le piège, où vous avez mis les attrapes. Mais il faut absolument qu'il arrive à quitter le sens apparent de la phrase. Et pour quitter le sens apparent de la phrase, il faut qu'il renonce à la logique. Il faut qu'il pense que les mots n'ont pas le sens qu'il croit. Les mots ont un sens, ils ont vraiment un sens. Mais et tout le jeu est de l'emmener vers ce sens-là. Mais seulement, il en a un autre. Et cet autre, le joueur n'y pense pas. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, pour trouver la bonne définition en tant que moi, Sphinx, et ensuite pour déjouer mon piège en tant qu'Édipe, il fallait se mettre dans un certain état mental qui rompait avec les règles de la logique, qui rompait avec les règles de la communication habituelle, et qui est proche de cet état que vous connaissez tous, qui est l'état entre la veille et le sommeil, qui je crois s'appelle l'état hypnagogique, c'est-à-dire le moment où le corps est pratiquement endormi, où l'esprit se met à fonctionner de manière totalement anarchique, avec des bribes de conversation, des images, des choses, etc. Et que c'est là que les associations libres, c'est-à-dire libérées, plus que libres, peuvent se faire. Et donc, au moment où moi je cherche ma définition, je dois mettre mon esprit dans cet état de flottement, où la logique est oubliée, où le sens est oublié, où par exemple, je ne m'occuperai plus que de la sonorité du mot. La seule qui me vient était cochonne, si je peux le dire quand même. C'est toujours comme ça, dit-il. Je crois que la définition était je n'oserais pas la dire. Enfin, le mot était Razmot. Le mot était Razmot et je parlais d'une histoire de barbier, quoi. Vous voyez ? Voilà. Donc. Donc, au moment où moi je pense Razmot, je vois évidemment un avion, tout le monde voit un avion. Et c'est seulement au moment où mon esprit se met à flotter dans cet état très agréable, je dois dire, où tout d'un coup j'entends Razmot tout à fait autrement. Et il me semble que ça vous regarde. C'est-à-dire que c'est exactement l'endroit où on associe librement. Voilà, et où les surréalistes faisaient l'écriture automatique. Puisque Desnos arrivait à raconter ses... Enfin, je ne crois pas que c'était des rêves, c'était ce qu'il voyait dans cette espèce d'état-là, où il avait acquis la technique, une technique suffisante pour pouvoir écrire ou dire à voix assez basse ce qu'il était en train de voir derrière ses paupières quand il était dans cet état-là. Ce qui est impossible, mais en général, ça casse. Tout de suite, on arrive dans l'état conscient. Et, voilà. Lui, il savait, il pouvait parler ou écrire tout en restant dans cet état-là. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est assez drôle d'ailleurs, parce que les gens qui font des mots croisés sont très souvent des gens qui ont le temps. Donc en général, ils ne travaillent plus, c'est souvent des retraités, des gens un peu âgés, qui ont un certain niveau social, qui ont assez d'argent pour acheter les journaux, etc. Ce sont des gens qui ont une morale, c'est souvent des bons bourgeois qui font ça dans leur fauteuil, pendant le café, etc. Oui, tout à fait ça. Et dans le mot croisé, ils échappent à leur ils se libèrent de leur, ils sortent de l'ornière dans laquelle ils sont toute la journée. Et curieusement, je raconte dans ce bouquin que j'ai fait sur les mots croisés. On parle dans une seconde. Mais un garçon, un de mes confrères au journal, m'a raconté qu'il a une grand-mère extraordinairement chic d'un autre temps. Il me dit, elle a des. Un petit collier de velours, etc. Des camés. Et. EES. Qu'elle est très très chic, qu'elle ne regarde pas la télévision, qu'elle n'a pas d'ordinateur, etc. Et qu'elle est vraiment déplacée du 19e au 21e siècle. Et un jour, il est entré dans son salon, et cette grand-mère très chic et très digne et très distinguée lui a dit « M'emmerde pas, je suis dans le drillon. » Et j'ai trouvé ça extrêmement révélateur du fait que cette dame était en train de raisonner complètement librement. Je trouve la phrase formidable. Non,
peut-être qu'on pourrait arrêter là. Non,
est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de touche noire dans aucun, me semble-t-il, hein, peut-être que je m'avance, des quatre côtés de vos grilles est une marque de fabrique ou quelque chose de spécifique?
La fabrique de mon prédécesseur Robert Sipion, que j'ai reprise, qui me semble assez bonne. Donc il n'y a pas de case noire sur le pourtour, parce que bon, d'abord c'est symétrique, c'est joli, et puis ça force à avoir des mots complets. Bon, il se trouve que je mets très peu de noir. Oui. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'aime beaucoup les choses techniques, j'aime beaucoup la technique en général, j'aime beaucoup la virtuosité en musique, j'aime beaucoup ces choses-là. Et donc c'est très difficile de mettre peu de noir. Donc en général, la moyenne est de 10% de cases noires. Et moi, je descends à 7 et la plupart du temps 6, ce qui est de plus haute virtuosité. Je ne vous le cache pas. Et je trouve que c'est. Des lecteurs me disent on n'en a rien à foutre de votre virtuosité, c'est une chose entre vous et vous, ça ne nous regarde pas, etc. Et moi, je trouve que ça les regarde directement parce que, justement, moins on met de noir, plus il y a de croisements. Et que donc, plus il y a de croisements, plus un mot que vous avez trouvé vous donne d'indices pour les autres. Et donc, vous pouvez augmenter la difficulté des définitions. Et ça arrange tout le monde. Et il se trouve que la tradition est, dans le journal pour lequel je travaille, qu'on fait les mots croisés les plus difficiles. C'est comme ça, c'était comme ça du temps de Scipion, et j'ai repris le flambeau comme ça. Et dès que je baisse la difficulté, dès justement que les définitions sont moins astucieuses, moins piégeuses, on m'insulte, on me dit, moi, si je fais ça en une heure, ça ne m'intéresse pas, je veux y passer mon week-end, etc. Donc, il faut que ce soit le plus difficile possible. Mais c'est vrai, c'est vrai. Donc, je les rends le plus difficile possible, mais je m'autorise cette difficulté-là en croisant au maximum. Et pour avoir le maximum de croisement, il faut le minimum de cases noires.
Je voulais vous interroger. Alors, donc, quand même, avant de venir à ma question, faire signaler, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure, que quand nous vous avons rencontré au printemps, vous nous avez appris que vous aviez rédigé un traité des mots croisés. Il était terminé déjà.
Oui.
Qui allait paraître.
Théorie des mots croisés, ça raconte.
Voilà, c'est ça. D'accord. Donc c'est un.
Et puis une série de. Une analyse comme ça, un peu de tous les endroits où on peut loger des pièges, de toutes les différentes sortes de pièges. Sur l'orthographe, hein, par exemple, la présence ou l'absence d'accent, ou la présence ou l'absence de virgule. Chaque définition est vraiment. Enfin. Je ne sais pas comment dire sans paraître prétentieux, mais c'est une sorte de petite orfèvrerie comme ça, parce qu'elle peut très bien manquer son but, être complètement ratée, simplement parce que vous avez oublié ou mis une virgule de trop. Donc c'est vraiment un travail fin. Voilà.
De dentelière.
Oui, un petit peu.
Vermeer.
Et si vous voulez être vraiment très difficile, il faut aller. Donc c'est le but. Il faut exiger de vous-même cette finesse-là. Voilà, sinon c'est pas drôle.
Alors ma question, ça c'était la précision, merci d'y avoir répondu. Ma question, c'est quelle place accordez-vous dans votre travail, hein, parce que là on a brassé quand même un champ assez, d'éventail assez large, à la poésie.
Dans mon travail, je ne lui accorde aucune place à moi, si ce n'est que, pour une raison que j'ignore, c'est moi qui, au Nouvel Observateur, reçois tous les livres de poésie. Dès qu'un poète publie une plaquette chez Verdier ou je ne sais pas où, je reçois. Et donc, parfois, il m'arrive d'en parler. C'est peut-être parce que j'y m'est arrivé d'en parler que le pli s'est pris, qu'on n'en parle plus du tout. Enfin, je veux dire, la poésie, ça, c'est vraiment alors, quelque chose qui est... C'est pas les catacombes, c'est... C'est même plus les catacombes. La poésie est morte, vraiment, du point de vue de la pratique des gens, enfin, des lecteurs. C'est vraiment réduit à un très, très, très petit, très, très petit cercle. Je n'ai aucun rapport personnel et original à vous soumettre. Je suis lecteur de poésie parce qu'il me semble que c'est la manière qu'ont trouvé les êtres humains d'émouvoir les autres avec la langue. Et voilà, et donc... Je suis dans Baudelaire toute la journée. J'ai écrit un livre entier sur un seul sonnet de Baudelaire. Parce qu'il m'a semblé...
Les chats ?
Pardon ?
Les chats ? Non.
La mort des amants. Parce qu'il m'a semblé que, justement, que Baudelaire est une de ces personnes qui vous offre un petit morceau de laine de l'écheveau et que si vous tirez comme il faut le bon bout de laine au bon endroit et avec la bonne force, vous allez pouvoir tout tirer. Baudelaire m'a toujours semblé vraiment être une espèce de centre de concentration comme ça de tout ce que nous sommes, tout autant que nous sommes. Donc autant dans le tragique que dans le comique, que dans le misérable, dans l'admirable, dans le beau, dans le laid, dans la ville, dans la nature, enfin toutes ces choses. Il me semble qu'il est au centre et donc j'ai pris ce poème en me disant si je prends ce poème suffisamment sérieusement, si je l'étudie vraiment aussi minutieusement que possible, je vais non seulement arriver à tirer toutes les fleurs du mal mais à tirer tout le monde entier, enfin tout le monde de Baudelaire en tout cas, voilà. Et alors la mort des amants, c'est un poème qui commence par le vers suivant, nous aurons des lits pleins d'odeurs légères. Et donc je me suis dit, je vais faire ce qu'on ne fait plus à l'université depuis très très longtemps, et que moi, quand j'étais prof, je continuais à faire, mais sous les quolibets de tous mes collègues, qui était de faire une explication de texte, de commencer par le premier mot, puis de terminer par le dernier, comme ça, c'est intéressant à faire finalement. Et donc nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, je prends nous, voilà, je fais 10 pages sur nous. Et puis auront, pourquoi le verbe avoir, pourquoi un couple, les deux amants qui sont en train de mourir, utilisent le verbe avoir d'abord, ou ils pourraient utiliser un autre verbe, être par exemple, ou un autre verbe d'action quelconque, non, là ils auront. Et puis on n'a pas maintenant, on aura plus tard, comme si cette espèce de le couple dont parle Baudelaire commence en se disant plus tard, quoi, une sorte d'espoir. La chose dont Nietzsche se moque le plus, quoi, c'est de repousser dans l'avenir les choses qu'il faut faire maintenant. Et puis cette possession, le nid, quoi, nous aurons, on ferme les portes, on les fenêtres, et puis on se regarde dans les yeux, et d'ailleurs tout le poème est organisé suivant des doubles, des miroirs, des choses comme ça, accumulées avec un art incroyable de la part de Baudelaire pour multiplier les images de miroirs. Il y a cette espèce de côté enfermé des amants qui ne font que se regarder, qui ne regardent plus du tout ailleurs et qui de toute façon ne sont même pas fichus de se regarder eux-mêmes, de se considérer comme étant là, ici et maintenant, en tant qu'hommes et femmes séparés, mais qui ils se fondent, quoi, dans le regard l'un de l'autre, comme s'ils se suicidaient, enfin comme s'ils se détruisaient par cette espèce de don magique. Un soir de rose et de bleu mystique, nos deux cœurs seront deux vastes flambeaux qui réfléchiront leur double lumière dans nos deux cœurs, dans les deux esprits, ces miroirs jumeaux. C'est un soir fait de rose et de bleu mystique. Nos deux cœurs seront deux vastes flambeaux qui réfléchiront leur double lumière dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux.
Oui, ah oui. Est-ce que la salle voudrait poser... on a un petit peu de temps devant nous. Alors, on va donner la parole à ceux qui dont ça brûle... Marc.
D'abord, j'ai saisi l'occasion pour vous remercier pour le plaisir que j'ai éprouvé en lisant le traité de la ponctuation en 91. Donc, quand j'ai appris que vous étiez là ce soir, je n'ai pas hésité. Et je voudrais vous poser une question sur la vie de la langue. Quand vous parliez de genre tout à l'heure, dans votre introduction, il y a quelques années, j'avais autour de moi régulièrement, familialement, des adolescents. Et tous les jours, j'apprenais des expressions, des formules nouvelles, et je trouvais ça épatant. Ça m'amusait beaucoup, et ça me manque beaucoup. Et effectivement, genre, c'est un phénomène actuel. Ça fait partie, me semble-t-il, de la vie de la langue. Et quand vous le dénonciez tout à l'heure, ça me rappelait que de mon temps, qui est peut-être aussi un peu le vôtre, le mot « putain » revenait tous les deux mots et exaspérait au plus haut point les adultes. Je ne parle pas de « vachement » qui a complètement disparu.
Espère. Espère. Espère était un joker aussi. Mais je suis absolument d'accord avec vous, mais ça n'est pas contradictoire. Il est évident que la langue évolue, elle a toujours évolué, c'est un corps vivant, bon ben voilà, très bien, et on a beau le... Enfin, il n'y a ni à le déplorer, ni à s'en réjouir. Il évolue, c'est un fait. Mais l'évolution ne veut pas dire... n'est pas... Enfin, je veux dire, notre corps, il évolue aussi, et comme vous savez, dans un assez mauvais sens. C'est tout ce que je veux dire. Il est évident qu'entre le
Moi je veux dire ça n'empêche pas que d'abord on bouge, c'est tout.
Je trouve que vous avez tout à fait raison. Il y a des choses qui sont on le sent bien nous-mêmes si on prend. Prête attention à ce phénomène-là, précisément ce phénomène-là. Si vous écoutez des jeunes qui parlent entre eux, et vous voyez la fantastique inventivité, enfin, vous réjouissez de cette inventivité. Vous vous dites la langue évolue. Seulement, ensuite, vous regardez la langue telle qu'elle devient. Et à ce moment-là, cette impression de vie se transforme en impression de mort. C'est-à-dire que vous dites, mais alors, s'il y a ça, s'il y a genre, qui est quand même une idée géniale en soi, d'inventer un nouveau mot et d'en faire un autre joker pour dire d'autres choses. C'est une idée formidable, mais le fait est que la langue se trouve appauvrie. Voilà. De même que le médecin qui vous dit, voilà, vous avez vécu, mon cher ami. Vous avez vécu. C'est-à-dire, vous avez brûlé de l'énergie, vous avez brûlé des calories, vous avez usé vos cellules. Tout ça est formidable, c'est magnifique, parce que ça a été la vie. Mais que, voilà... Non, mais je pense que c'est simplement une question de prise de conscience. Je crois que si un jour on avait je sais, c'est sans doute politique comme tout, mais si quelqu'un prenait conscience du phénomène de l'anglais, enfin de l'envahissement par l'anglais, comme dit Godard, vous avez voulu les Américains, ben maintenant vous les avez. C'est ça, c'est-à-dire cette espèce de d'auto-flagellation constante que nous faisons. De se dire, nous sommes des nuls et c'est eux qui ont raison. Si nous voulons être jeunes, modernes, etc., il faut que nous parlions anglais. Si le jour où on prendra conscience que nous sommes en train de faire cela, on pourra laisser la langue évoluer normalement sans y ajouter, je veux dire. Notre corps, effectivement, vieillit. On n'est pas obligé non plus de lui injecter des poisons pour accélérer le vieillissement. C'est ça, la question. Si monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, le patron de Radio France... Mathieu Gallet. S'il envoie un jour un mail à tous ces journalistes en disant on ne dira plus hashtag, on dira mot dièse, parce que hashtag on l'entend vraiment à chaque émission, quoi. Bon, il suffit d'envoyer un mail et dire à partir de maintenant on dit mot dièse. Mot dièse n'est pas plus mal qu'hashtag, pardon. C'est pas... il y a des traductions qui sont parfois ridicules. Le smiley qui est traduit par frimousse. C'est un peu faible, je l'avoue.
Le courriel n'a pas pris.
Non. Bon, enfin, bon, il a le mérite de ne pas être ridicule, en tout cas. Mais enfin, il n'a pas... Mais donc, il suffirait de décider ça, puis on dirait mot dièse à chaque fois. Et si on disait... Voilà, il suffirait de décider ça.
Justement, ça ne décide pas.
Mais si, ça pourrait très bien se décider.
Courriel.
Non, mais les Canadiens le font, les Québécois le font.
Oui.
Ils sont d'une rigidité, d'une violence. Ils traînent les gens en justice. Ouais. Ils leur mettent des amendes. Voilà. Parce que on est en situation... C'est ce que je disais... on est en situation de fonder quelque chose qui s'appellerait l'écologie linguistique. Il n'y a pas de raison de dire nous protégeons notre planète, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, etc. Et pas la langue que nous parlons, mon chien. Pourquoi on protège tout? Et ce qui fait le ciment entre nous, ce qui fait qu'on communique, enfin, etc., ce qui est le langage articulé, on le laisse dans un état de pollution constante. C'est à la fois incohérent et stupide. C'est ça que je veux dire, c'est tout, autrement qu'elle évolue. Elle évolue. Déjà au Moyen-Âge, quand les gens ont dit tabla au lieu de dire taboula, les lettrés ont dit, mais c'est lamentable, enfin, cette langue ne vaut plus rien, ils ne disent même plus taboula. Alors qui a gagné? On sait bien que c'est ceux qui disaient tabla qui ont gagné, n'est-ce pas? Puisqu'on dit table. Et c'est comme ça. Il est un fait que la langue évolue et donc personne ne s'en plaint d'une certaine manière. Simplement, c'est qu'il ne faut pas qu'elle meure. Voilà.
Une autre question. Françoise Gorang.
Oui, d'abord, merci à mon tour. En ce qui concerne ce que vous dites sur la préservation de la langue, je crois qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui en sont préoccupées et qui publient, par exemple, Barbara Cassin, avec qui je travaille, à l'Institut hospitalier de psychanalyse. Dans notre prochaine revue, nous allons publier un article précisément à propos de l'enseignement du latin, par exemple, et du grec. Et elle a maintes fois non cessé de parler du globish. Et non cesser de se battre pour ces questions-là, aussi pour le vocabulaire des intraduisibles. C'est aussi une façon de faire en sorte que toutes les philosophies soient là, et c'est un peu une lutte contre le globish, comme quand elle écrit sur Google. Enfin, je crois qu'heureusement, il y a quand même des personnes qui s'inquiètent de tout ça, mais vous ne trouvez pas que c'est quand même quelque chose qui mobilise, enfin peut-être pas grand monde, c'est vrai, mais quand même certains, non?
Oui, oui, je ne pense pas que les langues meurent si vite que ça. Elles meurent très, très lentement. Elles avancent sur leur air, là, comme les bateaux, et puis elles avancent sur leur lancée. Le fait est simplement que je crois que nous sommes assez peu à nous en inquiéter, et en plus, nous sommes assez impuissants. C'est-à-dire que nous ne sommes rien par rapport à M. Radio France. Nous ne sommes rien du tout. 50 Barbara Cassin ne font rien contre Radio France. Vous voyez ce que je... Voilà. C'est le côté catacombe de la chose qui est un petit peu...
On va peut-être pas s'arrêter là-dessus. Y a-t-il une autre question, Françoise, devant une autre... Ah ben, il y a deux autres questions. Si vous pouvez rapatrier le micro... Donc, Françoise Josselin.
Je vous remercie, moi aussi, mais je voulais vous me permettre de vous poser une question personnelle. Est-ce que vous avez le souvenir de votre première jouissance avec la langue? Ça nous intéresse beaucoup.
C'était effectivement extrêmement personnel.
Obligé de répondre.
Je vais vous dire que c'était avec la faute que j'ai joui la première fois. Je vivais dans une petite ville de l'Est de la France où on parlait un français absolument exécrable. Je ne sais pas pourquoi. Mais il était particulièrement exécrable. Et quand j'allais à l'école, que j'avais, je ne sais pas, 6-7 ans, et que j'entendais mes camarades, ils employaient des mots que je ne connaissais pas. pas seulement ça, et aussi porter des vêtements que je ne connaissais pas. Il y avait plein de choses que je ne connaissais pas, parce que j'étais un petit bourgeois qui n'était pas habillé comme les autres et tout ça. Et donc, mais le fait est que je ne disais pas celle latte. Eux, ils disaient celle latte. Ils mettaient celle-là au féminin. Il y a celui-ci, et puis celle latte. Ou bien ils disaient une pomme pourrite. Et donc, ces fautes-là, mais il y a ça dans Proust aussi avec Françoise. Ces fautes-là sont un vrai régal parce que justement, là, tout d'un coup, la langue prend de l'épaisseur. C'est plus simplement une langue que vous parlez comme un moyen de communication tout à fait naturel et normal. Tout d'un coup, la langue prend une réalité parce que vous voyez les déviations. On sait bien que pour étudier, par exemple, le fonctionnement mental, cérébral, on part des malades, on part de. Je sais pas, quelqu'un qui les questions de mémoire, par exemple, pour étudier les zones dans le cerveau, on part de malades toujours, on part de gens chez qui ça ne fonctionne pas, qui ont par exemple qui font de l'hypermnésie ou bien qui ne se souviennent pas des choses récentes mais que des choses anciennes, ou l'inverse, je ne sais plus très bien. Et donc pour la langue c'est pareil, la faute est extraordinairement utile. Et donc pour un enfant qui est, vous savez, c'est fantastiquement ouvert, enfin ça a les oreilles qui sont tout le temps ouvertes. Les premières choses sont celles-là où je me souviens aussi avoir été extraordinairement émerveillé par le fait de rencontrer une vieille dame qui parlait un bon français, parce que j'avais une vieille dame chez moi, une vieille tante qui a vécu avec nous quand j'étais petit, qui était italienne et qui parlait un sabir épouvantable. Et donc dans mon esprit d'enfant, toutes les vieilles dames parlaient un sabir épouvantable. Et j'ai vu un jour une vieille dame qui parlait très très bien le français. Et j'ai dit, ah, ça existe, c'est magnifique. Vous voyez, c'est toujours la faute au départ, presque toujours.
Parce que, si vous me permettez, j'ai un souvenir personnel de mon
Allez-y.
Côté.
À votre c'est... tour.
Quand j'étais... non, mais ça me vient comme ça, vous êtes tout le temps. C'est que, enfin, j'étais persuadée que les adultes parlaient une langue qu'il fallait apprendre, comme une langue étrangère. Alors, naturellement, c'est dans mon esprit, tout ce que vous voulez, mais c'est m'a resté en mémoire, ça, cette idée de...
Mais je crois que nous avons éprouvé tous ce sentiment-là le jour où il a fallu écrire. Et que nous avons appris qu'il existait deux langues françaises, parce qu'en fait il en existe deux, la langue orale et la langue écrite. Et qu'elles ont des rapports évidemment très étroits, mais enfin qu'elles ont aussi divorcé à certains égards. Et
donc, c'est simple.
Oui, toutes sortes de choses, mais en fait, tout ce qui est de l'ordre de la correction, justement. On prend conscience de la nécessaire correction ou donc de l'incorrection le jour où on a à faire des phrases et où vous avez un maître d'école ou une maîtresse d'école qui vient et qui vous dit mais ça ne s'écrit pas comme ça, ça s'écrit comme ça, qui vous explique les conjugaisons, etc. et qui amène au conscient quelque chose qui ne l'était pas. Enfin. Mais je dois dire que l'exercice le plus intéressant que j'ai jamais fait à des étudiants, c'est des exercices de correction, justement. De partir d'un texte fautif ou maladroit ou médiocre ou n'importe quoi, et de leur dire réécrivez-moi ça, corrigez-moi ça. Et moi, comme auteur, les quelques fois où on m'a rendu un manuscrit corrigé parce que ça avait été bien lu, j'aurais embrassé le correcteur, parce que vous progressez d'un seul coup. Chaque correction vous entre dans la mémoire instantanément. J'ai pourtant une très mauvaise mémoire. Je me souviens de toutes. La manière de. Vous prenez simplement conscience de choses dont vous ignoriez. Par exemple, l'ordre des mots, tout simplement. Quand on écrit sans se préoccuper de l'ordre des mots. Or, l'ordre des mots, c'est une des choses les plus difficiles dans la langue française. C'est vraiment là pour le coup, que la technique peut s'exercer. À quel endroit on met le complément d'objet? Est-ce qu'on le sépare du verbe? Est-ce que, etc. Et le jour où quelqu'un vous prend votre phrase qui est bancale et vous dit mais si vous mettez ce mot-là ici. Elle devient équilibrée, c'est une découverte fantastique, oui. Et donc, du coup, après toutes vos phrases, vous pouvez les regarder comme ça. Et donc, les bons relecteurs sont des gens extrêmement précieux, vraiment extrêmement précieux. Ils sont, hélas, très rares.
Et oui, de plus en plus. Frédéric, tu voulais poser une question, ça peut-être la...
Autre. Il y aura deux questions après, on arrêtera.
Se faire tard.
C'était pas vraiment une question, c'était plutôt un remerciement que j'ajoute au remerciement précédent, parce que je voulais dire que, en plus, au passage, vous avez amélioré Lacan. Alors ça, c'était peut-être pas prévu au programme. Et c'est une grande surprise pour nous, hein. Puisqu'après tout, la citation « Faites comme moi, virgule, ne m'imitez pas », c'est de vous. Le texte de Lacan, c'est « Faites comme moi, mais ne m'imitez pas ». Et je dois dire que votre élision du mais et votre virgule,
c'est beaucoup mieux. Alors là,
c'est quand même beaucoup mieux. Donc encore une fois, merci.
Ce Lacan dont j'ignorais l'existence jusqu'à ce soir. Il est exact aussi, il est exact que la virgule est un signe d'ellipse par définition. Ça remplace et, or, mais, etc. Donc c'était assez logique.
Mais on entend beaucoup mieux que Lacan ne s'imitait pas lui-même, en tout cas.
Moi aussi, j'ai trouvé tout à fait délicieux de vous écouter. On resterait plus longtemps, mais... En fait, ma question, elle porte... Enfin, oui, je ne sais pas si c'est une question ou une remarque. Je trouve très, très difficile... tout ce que vous dites est très convaincant, mais je trouve quand même très difficile de saisir le seuil à partir duquel on peut dire le français est au cimetière. Je trouve ça très difficile parce que, la langue évolue, elle ne va pas disparaître, même s'il y a beaucoup de... Je déteste les anglicismes, mais même s'il y a beaucoup de mots anglais qui rentrent, ça se digère aussi.
Non, ils ne se digèrent pas. Voilà, précisément. Je vous interromps, puis vous terminerez, excusez-moi. Cette question est intéressante. Parce que jusqu'à présent, on digérait, justement. Un mot arrivait de l'arabe, un mot arrivait de l'italien, de l'allemand, du latin, de l'anglais. Et la langue le digérait exactement. C'est le mot qu'il faut employer. Aujourd'hui, il vous reste sur l'estomac. Nous le prononçons à l'anglaise, nous l'écrivons à l'anglaise, nous le pensons à l'anglaise. C'est-à-dire que Riding Coat, qui est devenu redingote, il est devenu français, lui. Il s'est assimilé. Exactement comme on fait avec les étrangers. On dit il faut les assimiler, il faut qu'ils s'intègrent, etc. Et avec les mots anglais, non, on ne les assimile pas. Il reste au contraire comme un obus, un éclat d'obus. J'avais un oncle quand j'étais petit qui avait un éclat d'obus dans la jambe. Son éclat d'obus était là. Et il était toujours là, c'était un corps étranger dans son organisme. Et les mots anglais restent des mots... À partir du moment où nous ne les francisons pas, où nous les prononçons avec d'autres règles, c'est-à-dire que nous déconnectons complètement... nous cassons le rapport extraordinairement étroit qui existe entre les choses écrites et la manière de les prononcer. Nous lisons la langue française en respectant des lois qui sont séculaires et... Nous faisons une exception pour l'anglais. Nous faisons semblant, enfin nous oublions comment se prononce ce qui est écrit. Et le jour où on dira un iPhone, on aura énormément progressé. Il n'y a aucune raison de dire iPhone. Un i se prononce i. Et donc si nous le prononçons i, il reste anglais. Voilà. Je vous en prie, continuez.
La question est encore plus accentuée alors, puisque ce qui m'intéresse, c'est la question que je me posais, c'est les seuils. Parce qu'il y a le registre du vocabulaire, il y a le registre de la syntaxe. Pour moi, me paraît très important, parce que la syntaxe, ça permet de penser. Quand même. On ne pense pas sans la syntaxe. Après, il y a le registre de la prononciation. Bon, il y a toutes sortes de registres, et donc... je me demande où passent les seuils. Les seuils à partir du... Je ne sais pas si on a la réponse possible, mais...
Non, je crois pas qu'il y ait de seuils marquables. Il y a seulement tous les éléments, tous les domaines que vous signalez, ils sont tous attaqués. La prononciation, l'orthographe, le vocabulaire, la syntaxe.
Oui, mais par exemple...
Voilà, il n'y a pas un seul de ces champs-là qui soit indemne.
Attaquer, oui. Mais voilà, dire attaquer. Prenons l'exemple que vous avez pris. Elle fait une tête, genre tout le monde devrait être à ses pieds. Bon, d'accord, c'est rigolo. Mais genre, on pourrait vouloir défendre genre. C'est pas mon idée, mais on pourrait vouloir défendre genre et dire finalement, c'est une phrase très synthétique. puisque à partir de l'image d'une femme qui prend des airs, ça évoque toutes sortes d'autres situations où quelqu'un prend une position de supériorité. On pourrait dire c'est des caves, genre nous introduit une cave. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui. Donc, alors, si ce n'est que genre, justement, c'est très vague. Et que la personne qui vous explique, qui prononce cette phrase-là, elle vous donne une information vague. Et c'est, encore une fois, c'est vous qui faites le travail. C'est-à-dire que c'est vous qui allez imaginer exactement. C'est précisément. Enfin, je veux dire, c'est pas un hasard si ça tombe sur genre, justement. Si c'est ce mot-là. Oui. On a pris un mot vague pour dire une chose vague, pour vraisemblablement exprimer une pensée vague, et qui va suggérer des idées vagues à celui qui l'entend. Tout ça devient complètement, oui, vague. Je me souviens, enfin, ça n'a pas grand-chose à voir, c'était le canard enchaîné, je crois, qui, au moment où l'Express avait pris comme slogan publicitaire l'hebdomadaire de la nouvelle vague, le canard enchaîné avait dit on attendrait un hebdomadaire qui soit plutôt l'hebdomadaire des nouvelles précises. C'était malin parce qu'ils avaient joué justement sur le vague de la chose. Et là, je trouve que la phrase que vous avez citée n'est pas si mal, mais ils ont mis genre deux espaces fumeurs par étage. Je ne sais absolument pas ce qu'on veut me dire. Je suis obligé de l'imaginer. C'est-à-dire que c'est exact. Là encore une fois, c'est Godard disait à propos du cinéma de papa, disons, on montre Delon, la gonzesse, et le spectateur dit Delon aime la gonzesse. Mais je veux dire, c'est comme le devin. J'en parle dans mon bouquin sur les mots croisés. La diseuse de Bonaventure, elle vous dit, elle met ses cartes sur la table, puis elle dit je vois un beau jeune homme. Puis elle vous dit pas ce qu'il fait. Ce beau jeune homme, il peut tomber amoureux de vous, vous tuer, vous aimer. Et c'est vous qui faites le travail. Donc il dit, je vois un beau jeune homme, je vois beaucoup d'argent. Et donc vous dites, le beau jeune homme va me faire gagner beaucoup d'argent. Mais si il arrive effectivement que le beau jeune homme vous en fasse perdre, elle est tranquille. Voilà, alors disons, je ne sais pas où sont les seuils, il n'y en a vraisemblablement pas. Alain Borer prétend que si, Alain Borer dit à partir du moment où, c'est là que ça s'est cassé, je crois que c'est de la rhétorique, je crois que c'est pour se faire plaisir qu'on dit que ça s'est cassé telle année parce que Giscard d'Estaing a fait son premier discours en anglais, c'est pas vrai, c'est pas un signe particulièrement... c'est anormal et c'est attristant, etc., mais c'est pas un signe, c'est pas... Je ne crois pas qu'il y ait de seuil. Je dis simplement qu'il y a une sorte de faisceau de symptômes. Voilà. Oui.
Bon. Eh bien, écoutez, nous allons remercier Jacques Drillon d'être venu. Avant de vous proposer de vous translater dans la bibliothèque où j'essaie de trouver des terres où un verre translation où un verre ne peut nous attend, je voudrais simplement vous informer. Je voudrais simplement vous informer de ce que la prochaine soirée connexion a déjà une date arrêtée, ce sera le 14 décembre, et nous recevrons Nicolas Bouchaud, qui est donc un acteur qui va jouer très prochainement, je vous le signale, une adaptation théâtrale du texte de Paul Celan, Le Méridien, au Théâtre du Rond-Point. Donc nous aurons l'occasion d'entendre Nicolas Bouchaud parler de... je rappelle, oui, la date du traité... Théorie des mots croisés, le 5 novembre. Il sort le 5 novembre, le livre, oui. Voilà, merci.